chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4. Comme d'habitude, nous nous retrouvons tous les lundis avec un sujet différent, souvent. Jusqu'ici, on a fait une série d'émissions sur le Ku Klux Klan qui se sont succédées les unes et les autres. J'ai décidé d'arrêter là parce que ça faisait beaucoup. Peut-être que je reviendrai dessus parce que j'ai un nouveau livre qui a été écrit par quelqu'un qui s'est immergé dans les milieux du Ku Klux Klan. Et une fois que je l'aurai lu, j'aurai peut-être envie de vous en faire part. En tout cas, pour l'instant, je pense que c'est suffisant. Aujourd'hui, on va entamer sur quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, je suis en ce moment à Strasbourg et on va parler d'un livre qui s'appelle « La nef des fous » de Sébastien Brandt. Sébastien Brandt, c'est un Strasbourgeois et j'ai ici l'un de ses arrière-arrière-arrière-petits-fils qui s'appelle Thomas Brandt. Qui va vous raconter plein de choses. C'est quelqu'un de très intéressant. Son aïeul, Sébastien Brandt, il le connaît très bien. Il a étudié sa biographie. Il connaît par cœur La Nef des Fous, je suppose. C'est un livre exceptionnel. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Et je vais vous présenter tout de suite Thomas. Thomas, bonjour.
Bonjour, Gabriel. Merci pour l'invitation. Oh. Quelques corrections, parce que dans le livre, il dit qu'il faut toujours dire la vérité. Quoique des fois, il dit qu'il faut garder des secrets, mais là, il y a la vérité. Je m'appelle Thomas Fritz, et Thomas Brandt est maintenant mon nom d'artiste. Le nom Fritz vient parce que Brandt est du côté maternel, et il y a eu à un moment donné que des filles dans la lignée, et donc le nom Brandt s'est perdu. Depuis plusieurs générations, il n'y a plus de Brandt. Je reprends ce nom-là. Et l'autre élément peut-être à dire, c'est que non, je ne connais pas encore le livre par cœur. Le premier poème est d'ailleurs des livres inutiles. On dit qu'on a beaucoup de livres autour de soi et que souvent on ne les lit pas. Et moi, je prends le temps finalement depuis que j'ai découvert ce livre il y a 3 ans maintenant, et j'ai découvert que c'était mon aïeul il y a 3 ans seulement, d'étudier les poèmes un à un, suivant ce qui m'arrive dans ma vie également. Et je sais que j'en garde certains à étudier plus en profondeur pour d'autres passages de ma vie à venir.
Très bien, merci beaucoup Thomas. Alors c'est vrai que ce livre est assez exceptionnel, il est connu parce que ça fait partie des classiques. Donc je vais lire un petit peu le résumé qui est derrière une des éditions que tu as chez toi Thomas, qui est aux éditions La Nuée Bleue, sachant que ce livre a été écrit en allemand. Il a été traduit, celui de La Nuée Bleue, a été traduit par Madeleine Horst. Il faudra que tu nous expliques tout à l'heure pourquoi il est écrit en allemand. Donc en fait, ce livre, nous sommes en février 1494, pendant le carnaval, un carnaval qu'on appelait en février, à cette époque-là, au XVe siècle, la saison des fous. Et il paraît, à Bâle, un livre qui s'appelait « Das Narrenschiff » du Strasbourgeois Sébastien Brandt. Le succès fut foudroyant et durable. Et on dit que jamais, depuis l'invention de l'imprimerie, un livre en langue allemande n'avait connu pareil succès. Brandt est dominé par l'idée que les malheurs des hommes résultent de leurs péchés, entreprend de leur montrer la laideur de leurs vices ou folies, et présente une galerie de portraits de fous où chacun pourra se reconnaître. Rien n'échappe à sa rigueur impitoyable. L'orgueil, la fraude, le blasphème, l'usure, mais aussi la manie des voyages, la désobéissance aux médecins et les sérénades nocturnes. Derrière le moraliste âpre et sans concession, pointe un observateur fin, souvent truculent. Cette attention aux hommes et à la vie, magnifiée par la superbe série de gravures sur bois à laquelle Dürer jeune aurait travaillé, confère à La Nef des Fous une vigueur et une modernité sans rides. Incontestablement, ce livre fait partie du patrimoine strasbourgeois. Donc d'abord, Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est écrit en allemand ?
Bah parce qu'à l'époque, à Strasbourg, on parlait allemand. Même si Strasbourg était à ce moment-là une ville libre depuis 1262 et la bataille d'Ausbergen, donc ni française, ni vraiment allemande, mais vraiment une ville indépendante, hein, autonome, la République libre de Strasbourg, on y parlait allemand. Et donc Brandt est né à Strasbourg en 1457, hein, et a vécu dans l'auberge de sa famille, le Lion d'Or, qui était situé rue d'Or à Strasbourg, jusqu'à 1475, quand elle avait 18 ans. Son père est décédé, hein, quand il était jeune, et sa mère l'a envoyé étudier à Bâle. Et à Bâle, il est rapidement devenu donc docteur en droit canonique, donc en droit religieux, mais également en droit civil, et doyen de la faculté de droit de Bâle. Il y a écrit les premiers manuels à destination des étudiants pour apprendre le droit. Il a fait d'autres initiatives avant ce livre-là, hein, notamment qui, en 1492, où il a fait des feuilles volantes par rapport à une météorite qui est tombée dans le sud de l'Alsace et qu'il a interprété comme un signe de Dieu, comme quoi l'empereur Maximilien d'Autriche, dont il était conseiller, devait attaquer la France. Et c'est ce qui s'est passé. L'empereur autrichien a attaqué la France et a gagné cette guerre. Et donc il a, le jour du carnaval, publié ce livre qui certainement lui a demandé beaucoup de temps, parce qu'on y trouve toutes les références bibliques et mythologiques imaginables. C'est juste invraisemblable parfois quand je regarde certains poèmes. Et suite à ça, il est retourné à Strasbourg en 1501. Un petit peu avant, il est retourné en 1499, et il est devenu celui qui écrivait les sermons, enfin qui aidait à écrire les sermons pour Geiler de Kaisersberg, qui était donc qui prêchait à la cathédrale de Strasbourg. Voilà un petit peu son parcours jusqu'à ce moment-là. Et sa vie s'est finie en fait comme premier secrétaire de la ville de Strasbourg pendant 20 ans, parce que Geiler a recommandé aux citoyens de Strasbourg de le nommer premier secrétaire. Donc Strasbourg était gouverné par des conseils, hein, le conseil des 13, le conseil des 15, des différentes corporations, ce modèle démocratique innovant déjà pour l'époque. Hein, et Brandt était le premier secrétaire de ces conseils-là pendant 20 ans jusqu'à sa mort en 1521.
Très bien, merci Thomas. Je vais vous lire un passage, parce qu'en fait, quand on lit ce livre, on se rend compte que c'est un livre qui est vraiment d'actualité. Il a été écrit au XVe siècle, mais il y a des choses qui sont récurrentes et qui nous rappellent des choses qui se passent à notre époque, qui sont dans l'actualité. Par exemple, je vais vous en lire un qui est court, « Des mauvais ou des bons ministres ». Beaucoup sont impatients d'arriver au pouvoir sans avoir de notion de la législation. Ils le marchent à tâtons en se tenant au mur. On écarte à Chussy et prie Ahitophel pour suivre ses conseils. Mais le ministre juste s'inspire du bon droit afin de n'être pas qu'un pieu de palissade qui pousse le cochon tout droit dans le chaudron. Mais il ne suffit pas d'exercer la justice en mutilant le droit. Il faut l'améliorer et chercher à connaître tout ce qu'on ne sait pas. Qui détourne le cours des voies de la justice restera sans excuse au jour du jugement. Et ne vous trompez pas, Dieu ne plaisante pas. Si chaque homme savait ce qui lui adviendra, il ne prononcerait de verdict à la hâte, car il sera pesé avec le même poids qu'il employa pour d'autres. Tout comme tu me juges et que je fais de même en te jugeant toi-même, nous serons tous les deux jugés aussi par Dieu, qu'on s'attende au tombeau à payer son écho. Pour tout verdict inique qu'on prononça un jour en violentant la loi, la date du procès est fixée par avance. Ce verdict sera dur. L'épée de Damoclès ne tient plus qu'à un fil et s'abattra sur lui. Qui viole la justice dans ce monde terrestre est poursuivi là-bas avec sévérité. Sagesse, intelligence, la force ou le pouvoir ne comptent devant Dieu. Voilà, donc c'était le petit, une des fables qui fait partie de La Nef des Fous, le livre de Sébastien Brandt, Des mauvais ou des bons ministres. Qu'est-ce que tu en penses de celui-ci ?
Alors déjà, ce qui est important, c'est de lire aussi les premières phrases qui sont souvent avant. Donc là, on a « Qui s'appuie sur la force quand il est au pouvoir et qui tourne sa veste selon le vent qui souffle, va pousser le cochon tout droit dans le chaudron. » Donc avant chaque poème, on a ces petites phrases qui complètent, qui parfois peuvent amener un sens inverse au poème lui-même. Et là, très clairement, Brandt commence son livre, hein, parce que c'est le poème numéro 2, par ce qu'il maîtrise à ce moment-là, et ce qui est légitime pour lui. Il est docteur en droit, il est doyen de la faculté de droit. Donc déjà, il pose par ce premier poème qu'il va parler de ce qu'il sait et de ce qu'il a appris. Et également, il remet en cause, parce que dans ce poème, on voit tout de suite, il dit qu'il faut connaître la loi, mais surtout chercher à l'améliorer. Et c'est comme ça qu'on avance. Et Et aussi, voilà, j'ai pas répondu à la question précédente sur l'histoire de la langue. C'est simplement qu'il a été écrit d'abord, effectivement, en allemand, mais que la traduction qui a fait fulgurance, c'est la traduction en latin. Très rapidement, le livre a été traduit en latin, et puis ensuite, il a été traduit déjà au XVe siècle, en français, en anglais, voilà, dans d'autres langues. Ça s'est propagé partout, et Brandt et le livre sont rapidement devenus très connus, copiés, mais aussi avec des déformations. Ce qui fait que Brandt a ensuite fait une nouvelle version où, à la fin, il dit arrêtez de me copier. Il y a un passage voilà, qui dit qu'il est copié de partout et qu'il faut garder le message tel qu'il est. Donc ça, c'est assez important de le notifier.
D'accord. À noter que, en fait, la petite phrase que tu as lue, qui est complémentaire, elle illustre, en fait, elle commente, en fait, une petite illustration de Dürer. Hein, c'est bien ça. C'est des petits dessins.
Alors, certains dessins sont de Dürer, mais pas tous. Il y en a certaines personnes qui disent peut-être pas sûr que ce soit Dürer, parce qu'en amont, Dürer signé ses gravures. Bon, la Tchotique, il y en a aussi, par exemple, qui ont été reprises par Erasme dans L'Éloge de la Folie. La première gravure du livre d'Erasme, c'est directement un bois, parce que c'est des gravures sur bois, qui a été reprise, le livre de Brandt, avec même les mêmes défauts. Il y a les mêmes défauts dans la même gravure, c'est la même image dans L'Éloge de la Folie de Erasme. Il faut aussi rappeler pourquoi on a eu cette fulgurance, c'est que sur ce livre-là, c'est qu'on est à l'époque, c'est ce qu'on appelle un incunable, c'est le début de l'imprimerie. À Strasbourg, il y a Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, c'est les premiers imprimeurs et c'est ce qui permet à ce livre d'être reproduit beaucoup plus rapidement qu'en étant écrit à la main avec le procédé de l'imprimerie et de ses gravures en bois pour illustrer. Il y a d'autres endroits où Brandt donne l'importance de ses gravures en bois parce qu'il dit que finalement pour tout le peuple c'est très compliqué de lire les textes, par contre une image est beaucoup plus compréhensible et j'ai actuellement beaucoup de certain travail pour analyser ces images parce que dans certains cas on se rend compte qu'il y a par exemple des petits animaux cachés qui donnent un sens complémentaire, par exemple sur le poème 13 sur l'amour qui en suivant les traductions il s'appelle sur l'amour ou des mœurs galantes il y a un petit lapin qui est caché parce que sur cette illustration on voit une très jolie demoiselle, mais avec la mort cachée derrière elle, qui tient en laisse des hommes, donc vers la mort. Donc c'est à l'époque de la vérole, de la syphilis, qui a eu une épidémie à Strasbourg. Donc certainement par rapport à ça, que si on a des mœurs trop légères, et on tombe malade. Et par contre sur cette gravure, on voit en bas deux animaux, un singe et un âne qui eux ne regardent pas cette femme mais qui sont tournés on le croit d'abord vers Cupidon et donc vers l'amour vrai et en fait qu'est-ce qu'ils regardent d'abord, ils regardent un petit lapin qui est caché et c'est ce petit lapin qui lui regarde Cupidon et l'interprétation de cet animal caché, il y en a d'autres je pense qu'elle est assez intéressante et actuellement il y a un certain temps que je passe pour étudier tous les dessins et trouver les petits animaux.
On peut en lire un autre ? Lequel tu aurais envie de lire ? Est-ce que tu voudrais en lire un toi-même ?
Il y en a tellement. Des vaines richesses, certainement. 67. Des vaines richesses, c'est le poème numéro 17. Alors, petit résumé d'abord. Celui qui a du bien et s'en délecte seul, sans jamais donner rien aux pauvres miséreux, se verra refuser le soutien imploré. La plus grande folie régnant de par le monde, c'est d'honorer l'argent bien plus que la sagesse, d'accorder des faveurs à l'homme richissime, portant bonnet de voûte ou garni de grelots. On les lit conseillés pour l'argent qu'il peut perdre. Le monde n'a confiance qu'en des poches bien pleines, messire Gros Magot doit être par devant. Salomon vivrait-il encore de nos jours ? Personne n'en voudrait s'il était tisserand ou si son escarcelle était vide d'écus. On invite les riches à de somptueux festins, aux figures gibier, volailles et poissons. On passe tout son temps à leur faire la cour, tandis que dans la rue, le pauvre est ruisselant ou bien tout grelottant. Pour le riche, on s'empresse. Savez-vous bien, messire ? Au sac rebondi d'or, c'est vous que l'on honore, c'est vous qui achetez la bonne renommée. Celui qui a des sous se fait beaucoup d'amis. On le salue bien bas et l'appelle cousin. Quand on parle mariage, la première question est invariablement « Combien a-t-il d'argent ?» Personne ne s'informe de son honnêteté. Raison, savoir, sagesse sont des futilités. Il s'agit avant tout de pêcher chez les fous le parti le plus riche qui a de bons morceaux à tremper dans sa soupe. Serait-il maquereau ? Là où manque l'argent, savoir, honneur, sagesse ne serait que du vent. Malheur à tous les riches se bouchant les oreilles aux cris d'appel du pauvre. Même s'ils frappent fort à la porte du ciel, Dieu ne les entend pas.
Voilà, donc là c'est pareil, c'est en fait dans cette littérature-là, dans sa façon d'écrire, on a l'impression un petit peu, il y a un peu des allures de jugement dernier, effectivement ça fait très prêche à l'église. Il était, c'était quelqu'un de très religieux.
Ben, il était très religieux, ben, il avait été donc docteur en droit canonique. Mais maintenant, si on lisait le poème 73, hein, qui est de se croire du clergé, quelque chose comme ça, il finit que finalement, il vaut peut-être mieux rester laïque. Je pense que la stratégie de Brandt dans son livre, ça a été de pas... Il s'est inspiré clairement pour moi de la Bible, du Coran, mais aussi de l'Évangile selon Thomas. Et ça a été de pouvoir... Ah oui, parce qu'il y a 114 poèmes comme dans le Coran. Voilà, et dans le 99, il parle, voilà, il parle de cette religion. Et ça a été finalement d'être dans certains aspects sur la même longueur d'onde que la Bible, peut-être pour pouvoir emmener les gens catholiques, donc de ce moment-là, de la Bible vers cette autre spiritualité, on va dire, vers cette autre ou ce complément de spiritualité. Également, effectivement, comme le Coran, la différence par rapport à la Bible, c'est que lui, il est structuré par thème, comme les sourates du Coran. Alors qu'on reprend toutes les histoires de la Bible. On parle de Moïse, on parle... Voilà, toutes les histoires de la Bible sont mentionnées quelque part dans ce livre. Plus celle de la mythologie, donc il remonte, et même des histoires égyptiennes, donc il va très large. Donc dans un sens, effectivement, il y a cette notion religieuse, mais à la fois il était conservateur, mais en même temps progressiste. C'est très paradoxal, mais c'est bien le cas. Et il ne faut pas oublier que c'est quelques années après sa mort que est venue la réforme protestante, en 1523, avec voilà, Bucer, Calvin, Luther. Et je pense que son livre a contribué à cette réforme protestante qui a lieu en Suisse, en Alsace, et ensuite s'est propagée.
Tu veux dire qu'en fait, Sébastien Brandt était quelqu'un qui baignait dans les mœurs de son époque, où la religion était prégnante et faisait partie de la vie de tous les jours, mais dans la préparation d'un au-delà hypothétique, et donc d'un jugement dernier, d'un jugement. Mais que, en même temps qu'il avertissait ses contemporains de ce qu'il allait pouvoir leur arriver s'ils versaient un petit peu trop dans tel ou tel travers, c'était quand même quelqu'un qui avait un esprit très critique par rapport à l'institution. Ouais.
Oui, il y a à la fois cette morale, on va dire, qui se base sur la religion existante, tout en la critiquant très, très, très fermement. Mais ce qui est plus important, je pense, c'est la partie finalement très psychologique de tout ça. En termes le livre est plus un miroir des folies qu'un référentiel des folies. Chacun il peut trouver ses propres folies. Et je pense que Brandt avait lui-même pas mal de folies qu'il a un peu exorcisées dans là-dedans, et que le fait d'écrire ses différents poèmes le faisait lui-même réfléchir. Par exemple, il semble que il a eu 7 enfants, Brandt. Moi, je descends de 2 d'entre eux, de Onufrius et Magdalena, où ensuite il y a eu des consanguinités au niveau de mon arrière-grand-père, qui s'appelle Abdallah d'ailleurs, Abdallah Fritz. Hein. Et Donc j'ai trois fois les gènes de Brandt. Mais donc Onofrius, il semble qu'il ait menti sur son âge à un moment donné pour faire croire qu'il était de sa femme légitime, alors qu'en fait c'était un enfant d'avant, hors mariage. Il y a des éléments comme ça. Est-ce qu'il l'aurait inscrit à l'université à 11 ans, alors que c'est pas possible? Lui-même avait ses propres vices sur lesquels il travaille via le livre, et du coup on recense énormément d'autres.
D'accord. Très bien. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. En même temps, il a un regard très critique sur les contemporains de son époque, effectivement. Bon, effectivement, peut-être qu'il se critique aussi lui-même, parce qu'on a tous des livres qu'on n'a pas lus chez soi. Non, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Je lisais, il y a aussi, à un moment donné, il parle dans un de ses poèmes des fous qui vont au carnaval. À notre époque aussi, c'est très criant, on a plein de gens qui vont au carnaval. On est tous des fous, en fait, finalement. Est-ce que, finalement, vivre en société, ce n'est pas être fou? Parce que, quelque part, Sébastien Brandt a l'air de pas mal avoir observé ce qui se passait à son époque, et il en a conclu qu'on était fous. Alors, où est le salut dans tout ça? Où est-ce qu'on peut trouver un certain sens à la vie, au milieu d'une vie en société qui est quand même relativement complexe? Peut-être que tu voulais en parler.
Eu não entendi exatamente o que ela quis dizer.
Como podemos viver na sociedade? Somos todos loucos. E qual é a essência da vida em tudo isso?
Acho que dentro que verdade todos estão loucos, mas dentro de cada loucura, cada pessoa tem que ter um propósito e um sentido que faça, que a motive todos os dias.
J'explique à nos auditeurs, pardon. Nous avons ici aujourd'hui des invités, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, donc Isabella, qui est d'origine brésilienne, et qui l'a traduit, vous pouvez vous présenter? Larissa, qui est elle aussi brésilienne, voilà. Ce sont des amis de Thomas, qui participent à l'émission, et vous verrez que dans la deuxième partie de l'émission, on parlera de certains travaux que Thomas fait avec Isabella sur le livre.
She said that she believes everybody's crazy on its own, but within that craziness, everybody finds a way to make sense in its own life, in its day-to-day life.
Donc voilà, en fait, c'est que chacun a une folie, et que c'est finalement à travers cette folie que chacun trouve une motivation dans sa propre vie, quoi. Voilà.
D'accord. Mais la manière dont Sébastien Brandt en parle, on a l'impression vraiment qu'il critique ses contemporains, qu'il les aime pas. Ça me fait penser un peu à ce mendiant qui vivait à l'époque d'Alexandre le Grand, et je me rappelle jamais de son nom. Vous vous en souvenez peut-être? Quelqu'un qui mendiait à l'époque de Alexandre le Grand et qui critiquait les grands de ce monde. Enfin, il ressemble beaucoup à cette personne. J'essaierai de retrouver son nom tout à l'heure. Et donc, on se demande, est-ce qu'il aime ses contemporains, Sébastien Brandt? C'est ça la question que je posais, en fait.
Mais bien sûr qu'il les aime, parce que quelque part dans ce livre, il y a aussi le livre sur l'équipage, où il explique que chacun trouve sa place dans une équipe avec ses propres folies, et que finalement c'est ce qui compte, c'est de vivre ensemble, et de savoir la notion du bien et du mal. À quel moment est-ce qu'on fait du bien aux autres personnes, à quel moment est-ce qu'on les fait souffrir? Finalement, c'est sûr que c'est une question qui n'est pas évidente. Des fois, il y a quelque chose qui peut faire du mal, qu'on fait dans l'éducation, par exemple, pour du bien. Quand on demande à un enfant de ranger sa chambre, bah, il n'est pas content, ça lui fait du mal de ranger sa chambre, mais ça lui permet de s'organiser, ça lui apprend à se structurer. Donc, le livre est aussi très avec des ambiguïtés. C'est-à-dire, par exemple, il y a un poème qui va être sur du mauvais exemple des parents. Donc attention, quand il y a des parents qui sont menteurs ou violents, les enfants, ils vont suivre cet exemple-là. Et un autre qui est d'honorer père et mère, où il dit, voilà, il faut toujours penser à honorer père et mère. Donc on a des sujets des fois très contradictoires, où finalement, chacun va pouvoir y trouver son propre sens. Mais les différentes folies, chacun peut en avoir plusieurs. Et il va finalement aussi proposer, je pense, de les expérimenter. Et que finalement, comme l'a fait plus clairement Erasme ensuite, Erasme, il a la folie, lui dit clairement, allez dans vos folies, et comme ça que vous apprendrez qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, en fonction de ce qui se passe avec les autres, et que vous progresserez dans la sagesse. Finalement, Brandt l'est aussi. Mais de façon beaucoup plus subtile, avec cette entrée initiale religieuse, pour justement capter cette population très endoctrinée de l'époque et l'amener à réfléchir.
C'est-à-dire amener les gens à aller un petit peu au-dessus et d'essayer de comprendre, afin qu'ils essayent de comprendre, qu'ils essayent de prendre du recul par rapport aux pratiques. Parce que en même temps que tu dis d'un air si bienveillant que chacun a ses folies, et qu'il faut, c'est souvent ce qui fait vivre et qui permet de faire son chemin personnel. C'est effectivement, il y a ce côté qui pourrait paraître un peu positif et rigolo, mais moi j'ai plutôt l'impression que Sébastien Brandt brandit une espèce d'avertissement en disant attention, il y a des choses qui se passent pas bien dans la société tangue, la société ne va pas bien, et c'est pour ça qu'on devient fou, puisque on est en enfer finalement, c'est ce qu'il essaie de nous montrer.
Oui, c'est très clairement, c'est la société qui va pas bien.
D'ailleurs, ça, profond par rapport à ce qui se passe à notre époque, on vit exactement la même chose.
Oui, mais c'est après, avec où justement, on vit la même chose, la société va mal, mais la société c'est quoi? C'est une union d'individualité. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est ce lien entre ces individualités. Et ce lien aussi dans la bienveillance. Que quand quelqu'un, dans sa folie, sans s'en rendre compte, fait du mal à quelqu'un d'autre, qui intervient pour le faire? Il y a le poème 10 qui est sur l'amitié véritable, où il ne parle pas seulement de l'amitié véritable entre deux amis, mais il dit que l'amitié véritable, c'est de considérer tout le monde comme un ami. Or, aujourd'hui, on est dans une société, c'est déjà à l'époque, où si quelqu'un se fait battre dans la rue, c'est pas sûr que quelqu'un d'autre intervienne. On va faire quoi aujourd'hui? On va filmer, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, cette scène-là. De toute façon, on va venir défendre le pauvre, le vulnérable qui se fait agresser par les autres. On est vraiment dans un égoïsme. Et peut-être que chacun, en reconnaissant sa propre folie, va, sur les autres folies, intervenir pour aider les autres et les conseiller. Et après, chacun reste libre, effectivement, de son action, dans la limite des lois.
Très bien. En tout cas, c'est un bien beau livre que je me ferai un plaisir de lire entièrement. Il ne faut pas tout le lire en entier parce qu'on pète les plombs. C'est le genre de livre qu'on ouvre à n'importe quelle page de la journée pour en lire une partie. Ça peut être intéressant de voir le faire dans cette optique-là. Moi, la question que je voulais te poser, Thomas, c'est à Strasbourg, Sébastien Brandt, c'est une fierté. Il y a le café Brandt, c'est un rapport avec Sébastien Brandt?
Il y a le café Brandt parce qu'il est situé place Brandt. Il y a la place Brandt. Donc le café Brandt est situé là. Voilà, c'est pas notre famille, c'est d'autres propriétaires. Et voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et Brandt, il y a de plus en plus maintenant des plaques commémoratives qui ont été mises ces dernières années. C'est vrai qu'il a été pas mal oublié ces derniers siècles, simplement parce que c'est de l'histoire locale. Et que dans l'histoire, à l'école, on apprend quoi? On apprend l'histoire de France. Et qu'en Allemagne, ils apprennent l'histoire d'Allemagne, et en Suisse, ils apprennent l'histoire de Suisse. Or, cette époque-là, du coup, comme la bataille d'Hochbergen, comme Brandt, c'est quelque chose qui est assez perdu. Il existe des cahiers de langue et culture régionale qui, dans certains cas, sont étudiés en culture régionale au collège, où il y a certains poèmes de Brandt, donc celui que je vous ai lu tout à l'heure sur les vaines richesses, qui sont étudiés par les élèves. Il y a le poème 27 aussi sur les études vaines, qui est intéressante, qui est aussi étudiée à l'école. Donc il y a une certaine fierté, mais aussi une méconnaissance. Il y a finalement très peu de gens à Strasbourg. Ce serait intéressant de faire un micro-trottoir. Donc, dès que vous connaissez Brandt, vous connaissez un élève des fous. Il n'y en a pas beaucoup qui vous répondront. Et c'est pour ça que j'ai fait mon maximum actuellement pour faire connaître son livre et cette histoire, mais surtout son livre, parce que Brandt disait que son livre peut guérir le monde de ses vices et le rendre meilleur. Et je pense que c'est possible.
Très bien, merci beaucoup Thomas. On a fini la première partie de l'émission où on parlait de Sébastien Brandt. Si tu as envie d'y revenir dessus à la fin, tu pourras Thomas, sans problème, ou si quelqu'un d'autre a envie de revenir dessus. On va passer une petite musique, c'est toi qui l'as choisi, c'est John Lennon, je te laisse donner le titre.
Imagine, voilà, que tout le monde partage le monde.
Voilà, je vous laisse écouter.
Imagine there's no heaven. Easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living.
Voilà, c'était une chanson de John Lennon. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, Thomas, puisque c'est toi qui l'as choisie ?
Cette chanson, c'est très simple, hein. C'est dans les paroles. Imagine qu'il n'y a personne qui va tuer personne, qu'il n'y aura plus de religion, qu'on va partager tout entier le monde, c'est-à-dire qu'on n'a plus de frontières, plus de passeports.
Plus de partis politiques.
Et plus de partis politiques.
Plus de violence surtout, ni de cruauté, et ça, on est encore loin d'y arriver. Mais bon, essayons. Alors, je voulais quand même préciser deux choses. On s'est trompé dans cette première partie de l'émission deux fois. Moi, je me suis trompée, je ne me suis pas trompée. J'avais oublié le nom de la personne qui mendiait sous Alexandre le Grand, c'est Diogène. Et ensuite, c'était pour te vous dire, chers auditeurs, rappeler à nos auditeurs et informer Thomas sur le fait que je ne m'appelais pas Gabrielle, mais Noura. Mais que Gabriel était mon pseudo sur Facebook. Voilà, tout simplement. C'est tout.
C'est un pseudo d'ange.
Nos auditeurs ont dû entendre par Gabriel, ils ont dû se demander ce qui se passait. Non, c'est toujours moi, Noura. Donc, je continue. Alors, on voudrait, on voulait, hein, c'est, Thomas, c'est bien ça, si tu avais souhaité, dans cette deuxième partie de l'émission, évoquer certains travaux que tu effectues avec d'autres personnes, en coopération, en collaboration, autour du livre. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Je te laisse carte blanche.
Alors oui, vu que tu me suis posé la question de comment faire mieux connaître ce livre, comment le travailler, et ben par d'autres arts et avec des nouveaux arts. Et donc ce qui est venu au fur et à mesure, c'est d'accueillir des artistes qui font des nouvelles peintures inspirées des gravures, mais inspirées aussi du livre. Aussi dans des fois des ateliers d'art-thérapie, je me sers du livre comme support pour de l'art-thérapie, et du coup ça donne aussi de nouvelles œuvres et de nouvelles interprétations qui ont du sens. Et ce qui est venu avec l'arrivée d'Isabella tout d'un coup l'été dernier, c'est la version cinéma. Ça fait quelques années que je m'intéresse au cinéma, que j'ai eu quelques expériences d'acteur amateur ou de figurant, que j'ai fait une petite formation dans ce secteur-là. Et tout d'un coup là, c'est un petit peu comme quelque chose de tombé du ciel, une révélation. Faisons des épisodes, faisons une web série, un film, avec toute la simplicité qu'on peut essayer de donner malgré le sujet complexe, pour faire connaître cette œuvre. Et donc on a commencé depuis juillet à tourner des épisodes. On en a déjà fait 4, là le prochain est bientôt publié. Et de là est venu un autre projet qui serait de faire vraiment une école artistique, cinéma, peinture, musique, basée notamment sur le livre. Peut-être qu'on peut... je donne la parole à Isabella pour qu'elle raconte un petit peu elle comment elle est rentrée sur ce projet-là, qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois, ce qu'elle en pense, de façon assez libre également. Isabella, comment fue tu entrada a este proyecto en el libro? Los primeros episodios, hablas libremente de qué hacemos juntos, nuestro proyecto, y qué piensas de todo eso, cuál es el futuro y la vida.
Então, inicialmente o projeto começou em julho e Thomas apresentou a ideia do livro e inicialmente eu gostei muito.
Mas em português? Porque eu ia poder estar em inglês.
Sim. Estou falando em português. Daí foi uma grande imersão em julho para conseguir entender o livro e o que ele queria passar nos episódios. E sinto que tem uma grande energia que colocamos nesse projeto para fazer com que as pessoas entendam cada mensagem.
So first, he introduced the project to her in July while she was working with him and another business stuff. And during that month of July, they actually worked a lot to make an immersion inside the book, to make to fill the book and stuff like that. And qual que foi a última parte que você falou?
Uma grande energia para fazer as pessoas entenderem cada episódio e o que se quer retratar.
And they put a lot of energy afterwards so that people could understand what every each episode talks about and the political stuff behind it.
Donc oui, donc Isabella est arrivée en juillet et je suis un peu j'écoutais en même temps Larissa qui parlait en anglais. C'est vrai que ça me fait moi repenser surtout à toute cette période là qui a été comme une nouvelle naissance vraiment à travers ce projet. Et mais donc ce qu'elle disait, c'est qu'effectivement, et je pense que c'est l'essentiel, c'est que on met beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans ce livre, dans ce projet, et qu'on en met beaucoup pour que les épisodes qu'on fait soient bien compris. Et parfois, bien les comprendre, c'est pas mettre beaucoup de choses, c'est un petit peu comme de l'homéopathie, mais mettre des petites choses importantes dans un global qu'on essaye de faire beau, quoi.
Si je peux me permettre, j'explique un peu le projet. En fait, si j'ai bien compris, Thomas et Isabella, vous cherchez à montrer le livre sous une autre forme que simplement une de la lecture, qu'elle soit orale ou individuelle sur un... au rapport seul à seul avec le livre, et en essayant de filmer le livre. Alors là, c'est vraiment une gageure, et je dirais pas que c'est une première. Je pense que dans le cinéma contemporain, il y a déjà eu des expériences qui ont été faites là-dessus, mélanger littérature et filmer le livre entre guillemets. Mais vous avez une drôle de façon de le faire. Vous le mettez en scène, vous l'imagez. Par exemple, je me souviens, Thomas, avoir vu cet été une vidéo où on voit Isabella se promener dans la ville de Strasbourg, et au début elle a les mains vides, et puis au fur et à mesure qu'elle avance, elle trouve un livre, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, elle se retrouve avec une grande pile de livres. Je me trompe pas, c'est bien ça?
Oui, mais ça, c'est le premier épisode.
Justement, que signifiait cette mise en scène-là? Est-ce que ça voulait dire que les livres, quoi qu'il arrive, on en trouvera toujours de partout, que ça manquera jamais, ou qu'à chaque fois, c'est une nouvelle découverte?
Là, c'était surtout... Je raconte un petit peu ce qui, moi, m'est arrivé au début, quand j'ai découvert Brandt et le livre. C'est qu'en cherchant, du coup, Nef des Fous, je suis tombé sur, effectivement, Narrenschiss en allemand, Ship of Fools en anglais, et je suis tombé sur une myriade d'autres livres qui s'appellent La Nef des Fous ou Ship of Fools, mais qui sont d'autres livres, plus contemporains. Certains sont directement inspirés. Il y a un livre allemand qui s'appelle Das Narrenschiff Reloaded, qui est très clairement critique la politique allemande actuelle sur le même modèle que Das Narrenschiff. Il y a la même chose, Ship of Fools, qui a été écrit par Tucson, que la plupart des Américains connaissent, qui critique la politique américaine sur le même modèle. Il y a Onfray qui a écrit un livre La Nef des Fous. Onfray, lui, il dit même pas qu'il s'est inspiré de Brandt. Hein. Il fait son livre La Nef des Fous, il pourrait dire, tiens, le titre vient de, et le concept d'ailleurs aussi. Voilà. Donc il y a toute une myriade de livres qui, dans toutes les langues, qui s'inspirent de ça. Donc ce premier épisode était vraiment pour introduire cette idée-là. Maintenant, l'idée avec Isabella de l'école de cinéma basée sur le livre, c'est que le fait de pouvoir faire travailler des étudiants peut-être vierges de violence, vierges de choses dures, un peu préservé, même si c'est dur d'être étudiant de nos jours, mais vierge peut-être d'expérience de vie plus dure, peut amener aussi de nouvelles visions de ça, de nouvelles interprétations, de nouvelles créations, mais aussi de nouvelles réceptions venant de l'idéosphère. Ce qui m'apparaît très clair avec ce livre qui existe dans toutes les langues et avec plein d'autres qui ont plein d'autres noms, c'est qu'on a une connexion entre les êtres humains et que finalement, ce que veut dire à la fois la Bible, le Coran, la Torah, ce livre-là, c'est que ce qu'il y a, c'est quelque chose dans l'invisible. Alors, ma vision personnelle, c'est que c'est invisible, c'est ce qu'on sait, c'est l'énergie noire, la matière noire qui constitue 80% de l'univers, qu'on est interconnecté par ça. Et le fait de faire avoir en même temps des gens qui vont travailler dessus va permettre, finalement, via cet invisible, également, pas seulement via la vidéo, de propager cette image.
Je trouve que ça montre aussi que le livre, c'est quelque chose de magique, que quoi qu'il arrive, on aura toujours des livres. Isabella voulait parler.
Open mic.
Só fala o que te tá na mente. Que você tá sentindo, sei lá, sobre o projeto.
Qual é essa visão?
Então, acho que é uma experiência única, porque eu nunca tinha trabalhado em um projeto na Europa, só no Brasil. Mas é uma mistura de arte com cinema e cultura ao mesmo tempo. E está sendo uma experiência única.
It's her first experience in Europe with theater and working with art here in Europe in general. And this project in specific makes art and culture and political and cinema, everything at the same time. It's been a unique experience.
Et donc, Isabella fait 3 ans de théâtre avant de travailler pour un théâtre au Brésil. Et donc là, c'est sa première expérience dans le domaine artistique en Europe. Et le fait de mixer à la fois art, culture et politique, c'est vraiment une expérience unique. Et c'est Cyril Gomez. ¿Cuál es el poema que tú te gustas el mucho? Y si...
Un poema que me gusta.
Sí. Por ejemplo.
Tienes varios, pero. O poema de não seguir conselhos que mostra muito uma crítica também social e faz a pessoa refletir bastante sobre a vida.
Especially the poem about not following advices of other people just makes the person think a lot about life in general.
Donc, notamment ce poème de ne pas suivre les conseils. Alors, c'est vrai que c'est en fait avec Isabella, on communique via les poèmes. C'est-à-dire que ce poème-là, à un moment donné, voilà, nous on discute, on essaie de dire des choses. Finalement, à un moment donné, comme tout humain, chacun reste sur son idée, l'autre n'écoute pas. Et tiens, rappelle-toi ce poème-là, ne pas suivre les conseils. Et ce poème, il est aussi essentiel sur la question qu'on avait tout à l'heure de la société qui va mal, alors que les humains, au fond d'eux, chacun est bien avec ses propres folies et que finalement, si on arrive à mieux écouter les conseils des autres autour de nous, on arrive aussi finalement à mieux trouver notre place dans la société. Et moi, l'expérience finalement, ces derniers mois, avec le travail de cinéma, ok, mais ce qui m'a appris le plus, c'est de pouvoir, dans ce travail avec Isabella, communiquer et faire connaissance en s'envoyant des poèmes du livre. Qui font vraiment à chaque fois réfléchir et puis parfois du coup en s'en inspirant pour écrire nous-mêmes nos propres poèmes que l'on s'écrit.
Très bien. Il y a d'autres projets par rapport au livre. Le premier film que vous avez fait, qui je pense vous diffuserez certainement un jour, quand l'œuvre faite autour du livre sera suffisamment conséquente. Et je pense d'ailleurs, c'est une œuvre de filmographie, mais peut-être qu'il y aura de la musique un jour. Mettre un livre en musique, mais de manière inédite, sans forcément reprendre les paroles de manière stricte, comme vous le faites avec le film. Vous ne reprenez pas l'histoire d'un livre que vous filmeriez avec un scénario, simplement vous filmez le livre comme un objet matériel qui fait partie de notre vie de tous les jours. Ça, c'est très intéressant. C'est une démarche artistique qu'on ne voit pas souvent, quoi. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est une démarche qui est intéressante. La première que j'avais vue, j'avais trouvé ça bien. Et tu m'as dit que vous aviez continué avec d'autres choses, d'autres innovations. Est-ce que tu as envie d'en parler?
Alors oui, les premiers épisodes sont déjà en fait en ligne sur notre chaîne YouTube. Ils ont été faits avec une tablette, un téléphone, à chaque fois en 2-3 jours, un petit montage rapide. Entre temps, on a investi dans du matériel professionnel et on est maintenant sur une durée plus longue à vouloir préparer des épisodes plus complets, plus longs avec plus d'intrigues. Et effectivement aussi rajouter de la musique. D'ailleurs sur le bateau principal de la Nef des Fous, qu'on voit là, il y a un drapeau avec des notes de musique. Ces notes de musique d'ailleurs on les joue à la au trombone à coulisses dans l'épisode 3 au tout début. Et cette mise en musique me semble assez voilà, fondamentale pour avancer effectivement sur les épisodes. Avec cette difficulté de trouver le ton juste, de trouver le... Mais c'est peut-être quelque chose de très éclectique. Mon idée, c'est plutôt de faire résidence d'artistes, d'avoir des groupes différents où chacun va trouver une interprétation. Mais aussi pour un événement que j'aimerais organiser, pour reprendre un événement qui a existé au temps de Brandt, c'est la fièvre de la danse de Strasbourg en 1518, où d'abord une femme, puis 400 personnes sont mises à danser en permanence pendant des semaines. Et certains jusqu'à la mort, paraît-il. Jusqu'à ce qu'on les a emmenés se faire limiter exorciser dans une église. Mais en fait, on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi ils sont mis à danser. Hein, si vous cherchez, il y a la fièvre de la danse 1518, c'est fabuleux. Certains disent qu'ils avaient une épidémie quelque chose, d'autres qu'ils étaient dans une secte. En analysant tout ça, moi je suis persuadé, surtout en regardant le poème de Brandt sur la danse, numéro 61, 62, que Brandt, peut-être avec d'autres de son époque, ont organisé ce qu'on a pour être le premier flash mob de l'histoire, d'avoir ces gens par désespoir qui se mettent à danser pour qu'il y ait une réaction, qu'on se demande pourquoi ils dansent et que ça fasse un petit peu comme un électrochoc dans une théorie du chaos ou je ne sais quoi. Et j'aimerais bien pouvoir reproduire ça, mais de façon très organisée, sans que les gens aillent à la mort forcément, c'est sûr, avec des équipes de danseurs qui se relayent, mais avec ces musiques-là en fond, et pareil en direct sur les réseaux sociaux pendant des semaines et des semaines, pour générer une révolution. Parce qu'il paraît qu'une révolution sans danse est une révolution inutile. C'est le tag qui est juste à côté de la maison.
Je suis entièrement d'accord avec toi, puisque il n'y a pas de révolution sans corps, il n'y a pas d'âme sans corps. Donc c'est lorsque le corps est entièrement en mouvement qu'il s'exprime, que la personne peut vraiment s'exprimer. Tout le reste n'est que futilité, et toutes les autres formes d'expression, qu'elles soient orales, écrites ou autres, sont toutes très décevantes par rapport à la véritable émotion et le vrai message qui transparaît d'un corps en qui danse et qui se chorégraphie lui-même. Et est-ce que tu savais qu'il y avait un chorégraphe justement qui est de Mulhouse, je crois, ou du moins d'Alsace ou du nord de la France, qui a fait une chorégraphie, il fait danser les gens autour de cette histoire.
On trouve, oui, plusieurs choses, plusieurs interprétations. Oui.
Au manège à Reims, il n'y a pas longtemps, il l'a reproduit ensuite dans son fief. Je crois que c'est, je suis pas persuadée que ce soit Mulhouse, je crois que c'est une ville alsacienne ou du nord. En fait, il fait des résidences. Il arrive dans une. Il est en résidence d'artiste sur un lieu artistique et il embauche des gens, des amateurs, qui vont partir. Et en même temps, il a sa troupe de base où ils sont 5 ou 6 danseurs et où il y a toute une chorégraphie qui se monte, tout un spectacle qui se monte justement autour de cette histoire de ces Strasbourgeois qui sont mis à danser de manière fébrile. Et c'est vraiment très intéressant. Et je ne sais pas pourquoi, c'est une vieille histoire qui est ressortie depuis l'année dernière. Avant, on n'en parlait jamais. Puis d'un coup, depuis l'année dernière, c'est ressorti. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a un trop plein d'angoisse qui fait qu'on a envie tous de se mettre à danser. Et puis c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui dansent dans la rue. Aujourd'hui, des troupes de danse contemporaine ou autres qui font danser les gens dans la rue. Peut-être que ça vient de là.
Alors, c'est aussi ressorti parce que 1518 de 2018, du coup en 2018 la ville de Strasbourg a fait il y a eu un livre qui a été publié, voilà, il y a eu certaines expositions qui en ont reparlé et du coup ça a fait un petit peu reconnaître cet élément là et ça a fait pas mal de youtubeurs ont fait des vidéos qui expliquent ça, on le trouve en français, on le trouve en anglais, donc c'est aussi ça qui a lancé la connaissance de cet événement. Et aussi récemment la ville de Strasbourg a aussi promu les 500 ans du décès de Sébastien Brandt, hein, 1521-2021. Il y a eu des cycles de conférences, des différentes plaques. C'est ça aussi qui fait depuis peu un renouveau de la connaissance du livre. Mais ce que je voudrais aussi quand même bien mentionner, c'est parler de la mise en... Voilà, la mise en mouvement du corps, hein, ce lien entre le corps et l'esprit... Et le Saint-Esprit, c'est sur quoi nous on travaille actuellement. On est en pleine période du marché de Noël à Strasbourg, avec notre fameux bretzel, symbole de la Trinité. On s'est mis sur un autre sujet sur lequel Brandt était très, très féru, ce qui est le sujet de l'Immaculée Conception. Qui est traversant, travers le livre à différents endroits, sans être très clairement mentionné, mais dont ça s'inspire. Et actuellement, ça nous amène beaucoup de réflexions, de création, et l'épisode actuel, les prochains, sont sur ce sujet-là. Et Decir algo, Isabella, sobre el tópico de l'Immaculée Concepta, o el episodio que hacemos del momento. Et la vision de eso.
É uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, um pouco fora do normal, mas mostra também, simboliza muito o amor em geral.
It's a vision a little bit different than people are used to seeing about the subject, but shows, mas mostra muito o quê? É uma visão diferente, but shows a lot of love in it.
Donc c'est une vision un peu différente de ce que les gens ont l'habitude de voir, mais de connaître par souvent l'éducation, mais dans lesquelles finalement il y a beaucoup beaucoup d'amour.
Merci beaucoup Isabella et Thomas. Juste pour dire à nos chers auditeurs, parce que là on est en train de dépasser notre timing et notre monteur va encore me disputer parce que j'ai dépassé le temps. Juste pour dire que effectivement il y a un chorégraphe qui s'appelle Vital Bini, qui est du ballet de Lorraine. Donc il n'est pas alsacien mais lorrain. Qui s'est emparé justement de cette histoire d'épidémie de danse de 1518 à Strasbourg, qui est mystérieuse, pour créer une chorégraphie. Sa compagnie s'appelle Kilo Hertz et il a créé NAR pour entrer dans la nuit, N-A-2-R pour entrer dans la nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire NAR, N-A-2-R en strasbourgeois, en alsacien?
Je ne parle malheureusement pas alsacien, mais même le nar de Narrenschift, il y a plusieurs interprétations derrière. J'ai fait 10 ans d'allemand, mais j'ai oublié tout l'allemand quand j'ai appris l'espagnol, c'est un peu une honte. Hein. Voilà, effectivement, il faudrait que je m'y remette, mais pour l'instant, je me mets plutôt au portugais. Et puisqu'il reste peu de temps, je vais quand même... pour moi, l'Immaculée Conception, c'est que finalement, dans l'amour, ce qui compte, c'est l'amour... d'une passion, hein, une passion que ce soit la musique, la culture, la lecture, l'écriture, et de se rencontrer autour de cette passion-là. Et c'est, je pense, ça, comme ça qu'on va au-delà des égos, au-delà des conditions matérielles. Et par exemple, plutôt qu'avoir des mariages d'intérêt, le poème sur les mariages d'intérêt, il est très bien. Voilà, récemment, je vais le faire plus officiellement, voilà. Non, attends. Voilà. Ce n'est pas un mariage civil, mais Isabella, veux-tu m'épouser dans ce projet? Isabella, ¿quieres ser mi compañera en este proyecto? No es una cosa de casamiento, como conocemos Sevilla. Si aceptas que trabajemos sobre este proyecto, junto.
Sí, ya hablamos de eso.
Este.
Muy bonito.
Bien, on va travailler.
Donc en fait, nar signifie idiot. Voilà, c'est ça.
Un peu différent.
Tout à fait.
Après, on avait fait la remarque, effectivement, le titre allemand.
À l'époque, quand on disait quelqu'un l'idiot du village, c'était le fou du village, ça veut dire la même chose. Donc.
Les Das Narrenschift. C'est l'histoire des fous.
Oui, donc, mais effectivement, il vaut mieux battre des fous, mais soyons fous d'amour, et puis tout ira mieux.
Très bien, bien. Sur cette petite déclaration d'amour, presque en direct, parce que l'émission est enregistrée, chers, très chers amis auditeurs, je vous souhaite une excellente semaine, Et puis, ça c'est une histoire entre Thomas et Isabella, hein, je le dis pour nos auditeurs, voilà. Si vous ne les connaissez pas, ça n'implique rien, voilà. Donc je vous souhaite une excellente semaine, j'espère que vous avez eu envie, grâce à notre émission, de lire La Nef des Fous de Sébastien Brandt. On la trouve facilement sur le net, c'est pas évident à trouver dans les librairies. La meilleure édition, enfin, elles ont toutes des belles illustrations. Il y a une très bonne édition qui est La Nuée Bleue, et sachant que le livre, qui est très célèbre, a été traduit dans beaucoup de langues. Donc voilà, je vous laisse regarder par vous-même. Et puis Thomas et Isabella, bah, je vous remercie beaucoup. Ainsi que notre traductrice, parce que je ne sais pas si vous avez vu, Isabelle parlait brésilien, très jolie langue, qu'on n'entend pas souvent parler chez nous. Et son amie qui est brésilienne aussi, traduisait en anglais ce qu'elle disait. Et ensuite, Thomas retraduisait l'anglais en français. Et comment, est-ce que tu peux nous donner le nom de la personne qui traduisait? Parce qu'il faut quand même qu'elle se présente, elle aussi.
C'est Larissa qui nous traduisait du Portugal.
Larissa qui vient également, enfin, en brésilien, en portugais brésilien, plutôt on va dire, hein, bien entendu. Larissa est également brésilienne d'origine. Voilà, c'est bien ça.
Brésilienne, as well.
Yes, si, yeah. Et non, et pas portugaise. Voilà.
Et on peut remercier Sakshi, qui elle est indienne, voilà, et qui nous assiste dans ce projet des épisodes actuellement. Donc on est assez international tout ça.
Tout à fait. Merci à tous, passez une excellente soirée et à la semaine prochaine, chers auditeurs. Au revoir.